kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family.
Act 1, Scene 1. A desert place. Thunder and lightning. Enter three witches.
When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain?
When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won.
There will be ere the set of sun.
Where the place?
Upon the heath.
There to meet with Macbeth.
I come, Grimalkin.
Paddock calls.
Unknown.
Fair is foul, and foul is fair. Hover through the fog and fill the air.
Bienvenue, chers auditeurs, à Les yeux ont des oreilles. Le thème de ce deuxième épisode, l'épouvante, car je ne bois jamais des vins. Et j'arrêterai là cette tentative d'imitation de Bela Lugosi dans le rôle du comte Dracula. En fait, j'ai jamais vu le film, mais j'imitais le vampire hémophile d'Annabelle Buck, pour ceux qui connaissent. Je disais donc, bonjour chers auditeurs, Caroline à l'antenne, et tremblez pauvres mortels, car la lecture du jour de Les yeux ont des oreilles tourne autour du thème de l'épouvante. En Incipit, vous aurez peut-être connu le début de Macbeth, la célébrissime pièce de William Shakespeare, réalisée à quatre voix par votre courageuse petite équipe, Camille Didascali et Will, Caroline et Viviana, dans le rôle des affreuses sorcières. Pour la petite histoire, les Élisabéthains croyaient vraiment aux sorcières, donc elles avaient un potentiel épouvante on ne peut plus sérieux. Soit dit au passage, ce bruitage s'appelle le cri Willem. Non, pas notre Willem, mais au vu de la coïncidence, on n'a pas résisté au plaisir de le passer. Oui, je sais, on a raté Halloween, mais le mois de novembre, avec les jours qui raccourcissent, le froid qui s'installe, les pluies sinistres, est idéal pour jouer à se faire peur, et puis aller se terrer sous la couette et grignoter du chocolat. Médicament officiel contre la trouille, approuvé par Remus Lupin et J.K. Rowling. Nous, on a bien sûr sur la table Figaro, le crâne en papier mâché, qui contient des M&M's pour nous réchauffer le cœur. Pour se mettre dans le bain, quelques aveux. Personnellement, j'ai peur des guêpes, parce qu'elles piquent et qu'elles sont méchantes. Et j'ai le vertige, parce que j'ai le vertige. Et j'aime pas les escaliers. Alors je sais pas si mes camarades sont plus braves que moi. Viviana, t'as peur de quelque chose?
Oui, j'ai très peur de la foule. Et quand dans quelques lieux, il y a beaucoup de personnes, j'ai très peur. Je suis un peu agoraphobe.
Agoraphobe, ok. Camille?
Moi j'ai peur des chiens méchants, des gens qui font boue, et de mon prof de techno de 6e qui m'a traumatisée.
D'accord. Will?
Moi c'est pas les guêpes, j'ai une peur irrationnelle des pigeons. C'est-à-dire que les pigeons, ils ont des yeux démoniaques, ça fait un peu sauron en miniature.
Ils sont partout. T'es les doigts aller à Venise?
Non mais c'est ça, non mais je peux pas aller à Venise, je suis interdit de Venise.
D'accord, les pigeons. Robin, t'as peur de quelque chose?
Robin
a très peur des problèmes techniques, d'accord, je peux compatir avec ça. Donc on est tous des trouillards, pas grave. Comme disait Nelson Mandela, l'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui conquiert cette peur. Et ma transition est donc tout trouvée pour laisser la parole à Viviana.
Nous voulons commencer cette émission sous l'horreur avec un extrait de La peur des gueux de Montpassant. La nouvelle est écrite en 1882. Et elle était dédiée à Joris Karl Huysmans, un autre écrivain très célèbre et un peu noir, juste pour rester dans le thème d'aujourd'hui. Montpassant, au début, donne une sorte de définition de la peur, et les symptômes sont donc décrits comme ça. Permettez-moi de m'expliquer. La peur, et les hommes les plus hardis pouvant avoir peur, c'est quelque chose d'effroyable. Une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, une spasme affreux de la pensée du cœur. Dans les souvenirs, seuls dans des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu qu'à une épreuve, ni devant une attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril. Cela a lieu dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses, en face des risques très vagues. La vraie peur, c'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit au revenant et qui s'imagine apercevoir une spectre dans la nuit doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur.
Merci Viviana.
Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Tirés de sources aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Aujourd'hui, Robin, notre technicien, a insisté pour se faire vanner à l'antenne avec un extrait du manuel de console de mixage que nous utilisons en studio mobile. Et étant donné le thème du jour, je ne pouvais pas décemment m'opposer à ces tendances masochistes, donc voilà. Dans la partie pour une utilisation optimale de votre console de mixage, page 11, petit 3, premier pas vers l'obtention d'un son de qualité supérieure. Avant de passer aux mixages et aux effets, il est important de vérifier que les niveaux sont correctement réglés individuellement pour chaque source. Nous n'insisterons jamais assez sur ce point. Le réglage initial des niveaux est d'une importance capitale pour obtenir des résultats optimums avec votre console du mixage. Voici pourquoi et comment. Petit 3, petit 1. La commande Gain de l'amplificateur principal en est la clé. Revenons au diagramme synoptique simplifié de la console du mixage. Donc je ne vais pas vous décrire le diagramme parce que je ne vois pas comment faire. Simplifier mon œil. Il y a in à un bout et out de l'autre. Donc c'est le trajet du son dans l'appareil. Il y a des flèches. Des boutons, une courbe d'encéphalogramme, des petits points et un plus. Chacune des étapes dans la console de mixage ajoute une certaine quantité de bruit au signal traité. L'amplificateur principal, l'égaliseur, l'amplificateur d'assemblage et les autres étapes de tampon et d'amplification présents dans le circuit de mixage. Ceci s'applique principalement aux consoles de mixage analogiques. Merci de le préciser. Il est à noter que la quantité de bruit ajoutée à chaque étape ne dépend généralement pas, de façon significative, du niveau du signal audio qui traverse le circuit. Ceci signifie que plus le niveau du signal à traiter est haut, moins le bruit est important par rapport à ce signal. En jargon technique, parce que le reste n'était pas technique du tout, on obtient alors un meilleur rapport signal-bruit, généralement abrégé en rapport SB. Tout cela conduit à la règle fondamentale suivante. Et attention, parce que c'est écrit en gras et encadré, donc on sait que c'est important. Pour obtenir le meilleur rapport SB, il faut amplifier le signal d'entrée au niveau moyen souhaité le plus tôt possible dans le cheminement de ce signal. Dans notre console de mixage, il s'agit de l'amplificateur principal. Si vous n'amplifiez pas suffisamment le signal à l'étape de l'amplificateur principal, vous devrez l'amplifier davantage lors des étapes ultérieures, ce qui augmentera le bruit produit au cours des étapes précédentes. Rappelez-vous aussi qu'une amplification initiale trop forte est mauvaise, car cela surcharge les circuits et provoque l'écrêtage du signal. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était une façon de s'excuser pour la qualité douteuse du son dans le premier épisode. Donc, Robin, au vu des pouvoirs qui ne me sont conférés par personne, je t'accorde l'absolution au nom de Lio, de Figaro et de la Sainte Radio Transistor. Donc voilà, par rapport au sujet, c'est donc l'épouvante des problèmes techniques, comme le disait Robin. Moi aussi, j'en fais des cauchemars. Et si vous n'êtes pas convaincu, apprenez que l'autre jour, alors que j'essayais de valider ma carte dans le tram, le boîtier m'annonce « Dialogue en cours ». Tremble l'humanité, car l'invasion des machines a commencé. Elle parle. Et après le fantastique et le banal, nous passons au naturalisme, avec le monstre qui peut se cacher dans l'âme d'un être humain. La bête humaine, d'Émile Zola, lu par Willem.
Juste pour situer, là nous sommes à la page 414. Personnages, donc on a Séverine et Jacques, qui sont amants, qui prévoient d'assassiner le mari de Séverine. Mais, comme il revenait vers la fenêtre, il trouva, debout devant le lit, Séverine en chemise. « Si nous descendions avec la lampe, expliqua-t-elle, tu verrais l'endroit, tu te placerais, je te montrerais comment j'ouvrirais la porte et quel mouvement tu auras à faire. » Lui, tremblant, reculait. « Non ! Non, pas la lampe. Écoute donc, nous la cacherons ensuite. Il faut pourtant se rendre compte. Non, non, recouche-toi. » Elle n'obéissait pas. Elle marchait sur lui au contraire, avec le sourire invincible et despotique de la femme qui se sait toute puissante par le désir. Quand elle le tiendrait dans ses bras, il céderait à la chair, il ferait ce qu'elle voudrait. Et elle continuait de parler, d'une voix de caresse, pour le vaincre. « Voyons, mon chéri, qu'as-tu ? On dirait que tu as peur de moi. Dès que je m'approche, tu sembles m'éviter. » Et si tu savais en ce moment comme j'ai besoin de m'appuyer à toi, de sentir que tu es là, que nous sommes bien d'accord pour toujours, toujours, entends-tu ? Elle avait fini par l'acculer à la table et il ne pouvait la fuir davantage. Il la regardait dans la vive clarté de la lampe. Jamais il ne l'avait vue ainsi, la chemise ouverte, coiffée si haut qu'elle était toute nue, le cou nu, les seins nus. Il étouffait, luttant, déjà emporté, étourdi par le flot de son sang dans l'abominable frisson. Et il se souvenait que le couteau était là, derrière lui, sur la table. Il le sentait, il n'avait qu'à allonger la main. D'un effort, il parvint encore à bégayer. « Recouche-toi, je t'en supplie !» Mais elle ne s'y trompait pas. C'était la trop grande envie d'elle qui le faisait ainsi trembler. Elle-même en avait une sorte d'orgueil. Pourquoi lui aurait-elle obéi, puisqu'elle voulait être aimée ce soir-là, autant qu'il pouvait l'aimer, jusqu'à en être fou ? D'une souplesse câline, elle se rapprochait toujours, était sur lui. « Dis, embrasse-moi bien fort, comme tu m'aimes. Cela nous donnera du courage. Ah oui, du courage, nous en avons besoin. Il faut s'aimer autrement que les autres, plus que tous les autres, pour faire ce que nous allons faire. Embrasse-moi de tout ton cœur, de toute ton âme. Étranglé, il ne soufflait plus. Une clameur de foule dans son crâne l'empêchait d'entendre, tandis que des morsures de feu derrière les oreilles lui trouaient la tête, gagnaient ses bras, ses jambes, le chassaient de son propre corps sous le galop de l'autre, la bête envahissante. Ses mains n'allaient plus être à lui. Dans l'ivresse trop forte de cette nudité de femme, les seins nus s'écrasaient contre ses vêtements, le cou nu se tendait, si blanc, si délicat, d'une irrésistible tentation, et l'odeur chaude et âpre, souveraine, achevait de le jeter à un furieux vertige, un balancement sans fin où sombrait sa volonté, arrachée, anéantie. Embrasse-moi, mon chéri, pendant que nous avons une minute encore. Tu sais qu'il va être là. Maintenant, s'il a marché trop vite, d'une seconde à l'autre, il peut frapper. Puisque tu ne veux pas que nous descendions, rappelle-toi bien. Moi, j'ouvrirai. Toi, tu seras derrière la porte. Et n'attends pas. Tout de suite, oh, tout de suite pour en finir. Je t'aime tant, nous serons si heureux. Lui n'est qu'un mauvais homme qui m'a fait souffrir, qui est l'unique obstacle à notre bonheur. Embrasse-moi, oh, si fort, si fort. Embrasse-moi comme si tu me mangeais, pour qu'il ne reste plus rien de moi en dehors de toi. Jacques, sans se retourner, de sa main droite, tâtonnant en arrière, avait pris le couteau. Et un instant, il resta ainsi, à le serrer dans son poing. Était-ce sa soif qui était revenue de venger des offenses très anciennes dont il aurait perdu l'exacte mémoire, cette rancune amassée de mal en mal depuis la première tromperie au fond des cavernes ? Il fixait sur Séverine ses yeux fous. Il n'avait plus que le besoin de la jeter morte sur son dos, ainsi qu'une proie qu'on arrache aux autres. La porte d'épouvante s'ouvrait sur ce gouffre noir du sexe, l'amour jusque dans la mort, détruire pour posséder davantage. Embrasse-moi, embrasse-moi. Elle renversait son visage soumis d'une tendresse suppliante, découvrait son cou nu à la tache voluptueuse de la gorge. Et lui, voyant cette chair blanche, comme dans un éclat d'incendie, leva le poing, armé du couteau. Mais elle avait aperçu l'éclair de la lame, elle se rejeta en arrière, béante de surprise et de terreur. Jacques, Jacques, moi, mon Dieu, pourquoi, pourquoi ? Dans ses rires, il ne disait pas un mot. Il la poursuivait. Une courte lutte la ramena près du lit. Elle reculait, hagarde, sans défense, la chemise arrachée. « Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ?» Et il abattit le poing, et le couteau lui cloua la question dans la gorge. En frappant, il avait retourné l'arme, par un effroyable besoin de la main qui se contentait. Le même coup que pour le président Grand Morin, à la même place, avec la même rage. Avait-elle crié ? Il ne le sut jamais. À cette seconde passait l'express de Paris, si violent, si rapide, que le plancher en trembla. Et elle était morte, comme foudroyée dans cette tempête. That boy is a monster. That boy is a monster.
Merci pour cette lecture dérangeante, Will. Et aussi pour avoir choisi la virgule qui suivait, Monster, de Lady Gaga. Vu qu'on n'est pas sûr que Gaga soit humaine, c'est doublement dans le mille. Ici, à Les yeux ont des oreilles, on n'est pas snob, et en voici la preuve. Après vous être gargarisé avec ces monstres sacrés de la littérature française que sont Maupassant et Zola, entrez en contact avec le fantôme de votre enfance, car Camille va vous lire un extrait de Scooby-Doo et le Château Hanté.
Dans cet épisode, Scooby-Doo et ses amis explorent un château hanté. Vera examinait les armes accrochées au mur. Un énorme bouclier attira son attention. Orné d'un lion en or massif aux grands yeux émeraudes, il était impressionnant. Toute griffe dehors, l'animal sculpté semblait prêt à attaquer. « Le blason des Montgomery, j'en suis certaine » songea-t-elle, en touchant les griffes qui saillaient légèrement. Une porte s'ouvrit alors dans le mur de pierre. « Un passage secret » murmura-t-elle. Lampe de poche en main, elle s'engagea dans la galerie. Dans un bruit inquiétant, la porte dérobée se referma sur elle. Scooby et Sammy, trop occupés à faire l'épître, n'avaient bien sûr rien remarqué. Sammy s'était déguisé en chevalier. Coiffé d'un homme, il faisait de grands moulinets avec une épée.
« Sire ragoût de porc, moi sire rhum steak de bœuf, je te défie !»
Scooby éclata de rire.
« Scooby-Doo, ragoût » chantonna-t-il. « Nous devons nous affronter en duel, pour savoir qui mangera la dernière tranche de viande !» reprit Sammy. « Prends ça !»
Sammy plongea, la pointe de l'épée en avant. Scooby l'évita de justesse et arracha une épée d'une armure. Il fonça à son tour sur Sammy, mais celui-ci l'esquiva juste à temps et contre-attaqua. Scooby détala en slalomant entre les armures.
« Je vous aurai, sire ragoût de porc !» cria Sammy en le poursuivant.
Il réussit enfin à le coincer.
« Et maintenant, sire ragoût de porc, faites votre prière. »
Scooby leva les yeux et aperçut le fantôme de War Montgomery juste derrière Sammy.
« Risty ! Fantôme ! Fantôme !» l'avertit Scooby. « Vous avez raison, sire ragoût de porc. La dernière tranche sera pour ma pomme. Vous avez une objection ?»«
Derrière toi !»
« Il y a quelque chose derrière moi ?» Scooby hocha la tête avec véhémence. Sammy se retourna lentement et jeta un œil par-dessus son épaule.
« Ah ! Le fantôme ! Le fantôme !»
Les deux amis se faufilèrent entre les jambes du revenant. « Par ici, Scoob !» cria Sammy en courant vers les armures. Scooby le suivit. Le fantôme aussi.
« Plus vite, Scooby !» hurla Sammy.
Ils se tapirent derrière la dernière armure de la rangée. Haletant, le fantôme de War Montgomery scrutait les alentours sans comprendre. Où était-il passé ?
« Regarde, Scoob !» chuchota Sammy.
Le fantôme est encore plus essoufflé que nous.
Scooby ne voulait pas rater ça. Un fantôme essoufflé. Il se pencha et se cogna dans l'armure qui les cachait. Elle bascula lentement sur celle qui l'a précédée. Crac et crac, crac, crac. Toutes les armures tombèrent les unes après les autres comme des dominos. Le fantôme se retourna dans bond et aperçut Sammy et Scooby.
Vite, Scooby, là-dedans!
Sammy sauta dans le coffre. Scooby le suivit et rabattit vite le couvercle. Clac! L'occasion était trop belle. Le fantôme ferma aussitôt le verrou.
Ce bruit-là me flanque les chocottes, gémit Sammy. Au secours! À l'aide! Au secours! Au secours!
Scooby et Sammy donnèrent des coups de poing furieux contre les parois du coffre.
Au secours! Fred! Daphné! Au secours!
Nous sommes perdus, soupira Sammy.
À l'époque nostalgique où on sursautait avec les monstres et où on croyait encore au sandwich auquel Sammy est accro. Merci Camille. Sous tous les climats et à toutes les époques, les hommes aiment se raconter des histoires pour se faire peur au coin du feu. Voyage maintenant en Ukraine, appelée aussi Petite Russie, où le narrateur Panko le Rouge, pseudonyme sous lequel se dissimule Nicolas Gogol, nous rapporte les histoires folkloriques contées pendant les soirées du hameau. Extrait de La Nuit de la Saint-Jean, traduit par Michel Couturier, lu par Viviana.
« Non, tu n'auras pas cette or avant d'avoir procuré du sang humain, » dit la sorcière. Et elle lui présenta un enfant de 6 ans environ, recouvert d'un drap blanc, tout en l'invitant du geste à trinquer le cou de la victime. Petro resta figé d'horreur. Ce n'est pas rien que de couper sans raison la tête de quelqu'un qui ne voit rien fait et qui plus est d'un enfant innocent. Furieux, il attracha les drapes qui couvraient la tête de l'enfant. Et mais croirez-vous, c'était Ivan. Il était là, le pauvre enfant, les bras croisés sous la poitrine, la tête inclinée. Fou de rage, Petro s'élança sous la sorcière et déjà il brandissait son couteau. Et est-ce que tu m'as promis pour avoir la jeune fille? Hurla Brassebrook. Et cette fois, comme si lui lui jetait une balle dans les dos, la sorcière tapa du pied. Une flamme bleue s'éleva du sol. Des pieds d'or, des pierres précieuses, dans les coffres, dans les chaudrons, s'amoncelant sur la terre, à l'endroit même où s'ils trouveraient. Les yeux de Petro s'enflammeront. Son esprit se brûla. Comme un fou, il empoigne son couteau. Et les sangs, innocent, lui glissa au visage. Des rires diaboliques éclatèrent de toutes parts. Des troupeaux de monstres et de gambédans devant lui. La sorcière, plaçant ses griffes dans le corps décapité, embouvait les sangs comme un loup. Tout se mit à danser dans la tête du jeune homme. Rassembla ses forces, il se mit à courir. Il ne voyait partout que du rouge. Les arbres, tous en sang, paraissaient flamber en gémissant. Le ciel, incandescent, tremblait. Des taches de feu comme des glaires passaient devant ses yeux. À bout d'effort, il entra en courant dans sa mesure et s'abattit comme un gerbe. Un sommeil de plomb s'empara de lui.